Et le journal est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. Pour le climat et la défense de l'environnement, le début d'un mouvement qui voudrait s'inscrire dans la durée, une grève scolaire et une manifestation à Paris cet après-midi à laquelle ont participé quelques centaines de collégiens, lycéens et étudiants. Changeons le système, pas le climat. Reportage dans un instant. Aux États-Unis, Trump abat une carte maîtresse qui est aussi sans doute sa dernière. Pour tenter de financer son mur à la frontière mexicaine, il va décréter l'état d'urgence nationale. Argument avancé à l'annonce officielle de cette décision. Imparable, tout le monde sait que les murs, ça fonctionne. Analyse de Grégory Phillips depuis Washington dans ce journal. Et puis, comment le Rassemblement National infiltre avec l'air de ne pas y toucher le mouvement des Gilets jaunes. On verra ça avec Frédéric Mettezo à la fin de ce journal. C'est lui qui signe cette semaine l'enquête du service investigation de Radio France. La première manifestation des jeunes étudiants, lycéens, collégiens à Paris pour le climat, sur le modèle de ce qui a déjà été lancé en Belgique, au Royaume-Uni ou encore en Allemagne depuis plusieurs semaines. Environ 200 adolescents et jeunes adultes ont tenté de faire entendre leur voix pour la défense de l'environnement et pour faire se bouger les responsables politiques accusés d'inaction dangereuse. Reportage dans le petit cortège parisien tout à l'heure de Sandrine Etoa-Andegg.
Au plus fort de ce rassemblement, ils étaient des centaines de collégiens, lycéens et étudiants à crier leur détermination devant les portes du ministère de la Transition écologique. Dans cette foule, un florilège de pancartes, je peux pas, j'ai climat, désolé maman, de sécher pour la planète. Louis, en première année de BTS, a séché 3 heures de cours pour être là.
C'est la première fois que je viens sur Paris pour manifester, pour que les politiciens respectent leurs engagements au niveau de la COP21. Au niveau du réchauffement climatique, qui fasse bouger les choses, parce que le politiquement correct n'est pas suffisant. Rien ne bouge, faut que ça change.
Nous sommes vos alliés, a déclaré devant les portes de son ministère Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique. Elle a invité les manifestants au dialogue. Après plusieurs refus, 3 organisateurs ont finalement accepté de discuter avec elle, dont Jules Spector, c'est le secrétaire général de la FIDEL, le principal syndicat lycéen.
Une alliée, je sais pas, on n'a pas forcément déjà les mêmes idées sur les politiques économiques. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a aussi une certaine responsabilité du modèle économique et social dans lequel on vit actuellement, dans les problèmes climatiques. En tout cas, il faut qu'on discute et là-dessus, on est totalement d'accord. On a décidé qu'on allait entamer un dialogue global avec la jeunesse de manière régulière. Peut-être dans le cadre du grand débat, ce sera à voir. Mais globalement, c'est une journée très réussie.
En tout cas, il reste mobilisé. Hein. Il donne rendez-vous vendredi prochain. Le lieu et l'horaire sont à déterminer.
Sandrine Etoa-Andegg, et concernant ce qui pourrait devenir le volet juridique de la contestation climatique et environnementale, le gouvernement vient d'adresser un argumentaire aux ONG qui menacent de le poursuivre pour inaction climatique. Un texte de 10 pages où l'État se défend des accusations qui lui sont faites de carences fautives et d'actions défaillantes. Les 4 ONG en question, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam se disent pas tout à fait convaincus. Le retour d'un serpent de mer dans la bouche d'Edouard Philippe ce matin. Il a été question de contrepartie que les bénéficiaires des aides sociales en France pourraient avoir à rendre à l'État. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Benoît.
Chef du service politique de France Culture. Le thème de cette petite rengaine est connu. Le débat est vieux comme le modèle social français. Le Premier ministre, d'ailleurs, ce matin a reconnu dans un même mouvement le caractère explosif de sa proposition. Une proposition restée d'ailleurs volontairement plutôt floue, à valeur de test politique, de ballon-sonde envoyé à un moment pas du tout choisi au hasard, évidemment. Édouard Philippe s'exprimait lors d'une réunion organisée dans le cadre du grand débat national dans le Finistère. Il s'agit, je cite, de s'interroger sur le fait que cette solidarité nationale puisse s'accompagner de contreparties et d'activités d'intérêt général.
Oui, et si on exigeait un certain nombre de contreparties en échange des droits et des prestations qu'on accorde? C'est la question soulevée ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe depuis Plomodierne dans le Finistère.
C'est un sujet explosif. Moi, ma conviction, c'est une conviction personnelle, c'est que compte tenu de l'importance de nos mécanismes de solidarité, compte tenu de nos finances publiques, il faut qu'on s'interroge sur ces contreparties. Et c'est indispensable d'avoir des mécanismes de solidarité. On est un pays où la solidarité, ça compte. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il s'agit de s'interroger sur est-ce que cette solidarité, elle peut s'accompagner de contreparties, d'activités d'intérêt général. Qu'est-ce qu'on demande à ceux qui bénéficient de la solidarité?
Cette proposition n'est pas nouvelle. Laurent Wauquiez en avait proposé d'en instituer le principe lorsqu'il était ministre de Nicolas Sarkozy en 2011. Et le département du Haut-Rhin en Alsace l'a mise en place depuis le 1er janvier 2017 sur la base du bénévolat. Environ 800 allocataires du RSA, le revenu de solidarité active, effectuent aujourd'hui quelques heures de travaux d'intérêt général en échange de leur allocation. Alors, il ne s'agit pas de prendre cette proposition du Premier ministre au pied de la lettre. Il n'annonce pas sa mise en place prochaine. Non, il faut y voir deux objectifs pour Édouard Philippe. Premièrement, l'exécutif est actuellement en phase de reconquête en vue des élections européennes de mai prochain et il sait que c'est à droite que se situent les réserves de voix pour En Marche et cette mesure qui s'adresse plutôt à un électorat de droite vise donc à montrer qu'on est en phase avec cet électorat. Deuxièmement, il faut voir cette annonce comme un test, vous le disiez, lancé en direction de l'opinion. Le gouvernement multiplie les ballons d'essai depuis le début de l'année. L'exemple récent de la suppression d'un certain nombre de niches fiscales en est éteint. Et pourquoi pas donc aujourd'hui des contreparties en échange des prestations sociales. L'idée là est sans doute de suggérer un certain nombre de propositions dont pourrait peut-être s'emparer la population dans le cadre du grand débat.
Merci Stéphane Robert. Un mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende ont été requis ce matin contre Éric Drouet. Le militant a été jugé à Paris pour organisation de manifestations sans déclaration préalable lors d'un samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Jugement mis en délibéré au 29 mars. Une affaire d'agression sexuelle qui ne va pas aider l'Église catholique et le Vatican à faire se dissiper, même légèrement, le parfum du scandale. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
On a appris dans la journée que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour agression sexuelle à l'encontre du nonce apostolique en fonction en France, Luigi Ventura, c'est l'ambassadeur du Vatican auprès de la République française. Une procédure qui est entamée à la suite d'un signalement de la mairie de Paris.
Effectivement, l'enquête a été ouverte le 24 janvier dernier. Les faits reprochés auraient eu lieu le 17 janvier lors de la cérémonie des vœux à l'hôtel de ville de Paris. La victime présumée est un homme d'une trentaine d'années travaillant pour la mairie de Paris à la délégation générale aux relations internationales. Cette agence est pleine de gestes déplacés répétés, des mains aux fesses à trois reprises, dont une fois devant témoins. Il en a fait part à sa hiérarchie qui a signalé les faits au parquet. Le suspect n'est autre que l'ambassadeur du pape en France, Monseigneur Luigi Ventura, un prélat italien âgé de 74 ans qui est en poste à Paris depuis maintenant 10 ans. Le Saint-Siège a fait savoir qu'il avait appris l'ouverture de l'enquête et donc en attend les conclusions. Mais Monseigneur Luigi Ventura bénéficie de l'immunité diplomatique. Ce nouveau scandale sexuel tombe en pleine sortie du livre choc de Frédéric Martel, Sodoma, qui est une enquête explosive sur l'homosexualité au Vatican. Il dénonce un discours souvent homophobes de prélats, parfois eux-mêmes homosexuels en privé.
Merci Antoine Marette. Aux États-Unis, c'est confirmé, comme on pouvait s'y attendre. Donald Trump s'est décidé à décréter l'état d'urgence national pour tenter d'obtenir les financements nécessaires à la construction de son mur à la frontière mexicaine. Le président américain vient d'en faire l'annonce officielle. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Benoît.
Vous êtes en direct de la Maison Blanche à Washington. Les principaux responsables démocrates ont réagi très vite à cette annonce, parlant d'un coup violent porté à la Constitution. Il y aura probablement un recours juridique, mais Donald Trump se voit déjà enjamber ce recours sans difficulté.
Oui, Donald Trump sait que cette procédure d'urgence va être attaquée immédiatement devant les tribunaux par les démocrates. Je m'y attends, dit le président américain. On ira sans doute jusqu'à la Cour suprême, mais je finirai par gagner, dit Trump, parce qu'il nous faut ce mur. Il nous faut répondre à ce que Donald Trump qualifie d'invasion de drogue, d'illégaux et de criminels. Les murs, ça marche à 100%, martèle le président américain en citant l'exemple de la barrière de sécurité mise en place par Israël avec les territoires palestiniens. Alors, en promulguant cette urgence nationale, Trump espère pouvoir débloquer immédiatement 8 milliards de dollars, le milliard 3 qui se trouve dans le compromis budgétaire qui a été voté hier soir par le Congrès, plus 6,7 milliards que l'administration va aller chercher ailleurs, notamment sur le budget de la défense. Ces 8 milliards devraient permettre de lancer les travaux pour environ 370 kilomètres de barrière à la frontière sud. Trump est donc combatif, il veut ce mur. En signant l'accord budgétaire du Congrès, il évite un nouveau shutdown, vous savez, cette paralysie des administrations américaines, mais il sait aussi qu'avec cette procédure d'urgence, eh bien, il entame immédiatement un nouveau bras de fer avec les démocrates. Il y a quelques minutes, la speaker de la Chambre, Nancy Pelosi, a d'ailleurs parlé d'un abus de pouvoir de la part du 45e président des États-Unis.
Merci Grégory Phillips, correspondant permanent aux États-Unis pour France Culture. Vous étiez en direct de la Maison Blanche. Donald Trump a profité de son allocution tout à l'heure pour faire le point sur quelques autres dossiers chauds du moment, notamment sur les négociations commerciales entre son administration et la Chine. Elles avancent très bien d'après le président américain, qui n'exclut pas une trêve prochainement. Elles reprendront ces négociations la semaine prochaine à Washington. La publication aujourd'hui d'un rapport accablant sur l'enfance dans le monde et sur l'impact qu'ont sur l'enfance les guerres, les conflits et les troubles en tout genre. C'est l'ONG Save the Children qui en est à l'origine et qui évoque des chiffres à l'occasion de l'ouverture de la conférence annuelle sur la sécurité mondiale à Munich, des chiffres qui font froid dans le dos. Munich, on va y retourner dans un instant. Bonsoir, bonsoir Bastien Munch.
Bonsoir Benoît.
L'étude de Save the Children révèle qu'entre 2013 et 2017, plus de 800 000 enfants sont morts dans le monde à cause des conflits. C'est plus que le nombre de combattants tués en zone de guerre.
Oui, les enfants sont 5 fois plus nombreux à mourir en zone de guerre que les combattants. Un chiffre impressionnant qui s'explique surtout par l'évolution des conflits sur le terrain. D'abord parce que les guerres civiles se multiplient, mais surtout durent plus longtemps. Alors forcément, les conséquences indirectes sur les populations sont plus importantes. Famine, destruction des hôpitaux, privation d'aide humanitaire, tous ces facteurs sont amplifiés. Eric Hazard est responsable du bureau de Save the Children en Afrique de l'Ouest et du Centre.
Souvent, les enfants, finalement, sont des victimes collatérales de ces conflits. Ils sont des victimes parce qu'ils n'ont plus accès à l'eau potable, parce qu'ils n'ont plus accès aux services de santé de base, etc. Et donc, à un moment où ils devraient être protégés, finalement, ils ne sont pas protégés. Ils se retrouvent dans un environnement qui n'est pas protecteur et ils en subissent toutes les conséquences parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles.
Les guerres sont donc plus longues, mais elles se déplacent aussi vers les zones urbaines principalement, comme à Mossoul, en Irak ou à Mogadiscio, en Somalie. Aujourd'hui, les champs de bataille ne sont plus clairement délimités. Du coup, les habitations, les écoles, en bref, les lieux fréquentés par des enfants sont en première ligne. En Afrique de l'Ouest, par exemple, plus de 200 écoles ont été attaquées entre 2013 et 2017. Save the Children a donc décidé de sonner l'alerte auprès de la communauté internationale. L'organisation ne demande pas plus de droits pour les enfants en zone de conflit, elle appelle juste à respecter ce qui existe déjà.
Merci Bastien Munch. Nous allons, comme prévu, à Munich maintenant, où nous allons prendre la photographie d'un monde qui se délite, d'une situation globale qui perd en cohérence à mesure que le multilatéralisme sombre. Voilà, en quelque sorte, le tableau général sur lequel se sont accordés les responsables politiques, diplomatiques et militaires d'une quarantaine de pays, réunis depuis aujourd'hui pour la conférence annuelle sur la sécurité de Munich, où nous retrouvons Ludovic Pietro. Bonsoir.
Bonsoir Benoît.
Notre correspondant permanent en Allemagne, face à un monde de plus en plus complexe et dangereux, les Européens, pressés d'agir, semblent estimer qu'ils font le job et que l'Europe tient face au péril du monde.
Oui, c'est bien, en tout cas, après ces premières heures de discussion entre experts et grands de ce monde, dans une conférence pourtant réputée très atlantiste, très pro-américaine, la petite musique qui se dégage, ce sont ces attaques verbales contre les États-Unis, contre la politique étrangère de Donald Trump, notamment le retrait prochain des 2000 soldats américains de Syrie. Sur scène, face à son collègue américain, un sénateur républicain, le ministre français des Affaires étrangères avoue son incompréhension, Jean-Yves Le Drian.
Il y a pour ma part un point que je ne comprends pas tout à fait dans la politique américaine dans cette région, c'est comment est-ce que l'on peut être très ferme à l'égard de l'Iran et en même temps abandonner le nord-est de la Syrie comme cela, alors qu'on sait très bien que la fin de l'histoire risque de favoriser la présence iranienne dans la zone. Pour moi, c'est un mystère. Et vous avez commencé à éclairer mon mystère en disant que les capacités américaines vont rester. Tant mieux. Je ne le savais pas, je l'apprends, je m'en réjouis.
Cette ironie du ministre français des Affaires étrangères donne une idée des critiques qui sont formulées ici à Munich, notamment par différents dirigeants politiques européens à l'égard des États-Unis de Donald Trump. C'est une inquiétude que l'on peut retrouver dans le rapport dressé ici chaque année au moment de cette conférence. Je cite « La position des États-Unis dans le monde pourrait bien pour la première fois être menacée davantage par sa propre politique intérieure et populiste que par l'ambition de puissances étrangères. »
Merci Ludovic Pietenu en direct de Munich pour France Culture. Le 15 février 1989, il y a tout juste 30 ans, les troupes soviétiques se retiraient d'Afghanistan, un conflit qui avait duré 10 ans et coûté près de 15 000 hommes aux soviétiques, un échec historique terrible. Aujourd'hui, le pouvoir de Moscou semble tenter de réhabiliter l'intervention militaire de l'époque. Parmi les vétérans qui se sont retrouvés aujourd'hui lors de célébrations organisées par le pouvoir, ces vétérans, ils ne parlent pourtant pas que de victoire et de retrait. La correspondance depuis Moscou de Claude Brouillot.
Les fanfares ont beau battre la mesure dans les grandes allées du parc de la Victoire à l'ouest de Moscou, le 30e anniversaire de la fin du retrait soviétique d'Afghanistan ne sera que le troisième sujet du jour sur les grandes chaînes fédérales, derrière le sommet économique de Sotchi et le tête-à-tête entre Vladimir Poutine et le président biélorusse Loukachenko. Après la parade, un groupe de vétérans discute autour d'un joueur d'accordéon à l'abri du vent glacial dans le couloir qui mène au métro. Parmi eux, il y a Nikolai, qui est parti à 18 ans combattre en Afghanistan durant 10 mois. Il se souvient très bien et sans amertume quand Gorbatchev a annoncé le retrait des troupes. Quand Gorbatchev a parlé, j'étais encore sur place. Il n'y avait pas de temps pour penser. On a reçu l'ordre, il fallait l'exécuter. Le soldat est un homme aux ordres. Il fait ce qu'on lui demande. Entre deux souvenirs, appuyé sur une pancarte en carton sur laquelle est inscrit le nom de son régiment, Alexander, 55 ans, lui, refuse de suivre le courant actuel qui veut présenter ses 10 ans de guerre comme une ultime victoire de l'URSS finissante. Il n'y avait aucune victoire pour personne. À la guerre, il n'y a pas de victoire. Ce sont des pertes pour tout le monde. Personne ne gagne. Mais nous, nous avons vraiment fait quelque chose là-bas. On se rendait compte qu'on aidait les gens. Alexander dit encore ne pas trop comprendre pourquoi la Russie discute maintenant avec les talibans. Et dans un sourire un peu fatigué, il rappelle tout de même que sur place, les Américains aujourd'hui ne font pas mieux que les Soviétiques hier.
Reportage de Claude Brouillot. Il est 18h16 sur France Culture, la suite du journal. Et voici comme chaque semaine l'enquête de la cellule investigation de Radio France avec cette question: comment le Rassemblement National tente-t-il d'infiltrer le mouvement des Gilets jaunes? De quelle manière le parti de Marine Le Pen travaille-t-il ce mouvement par nature difficile à saisir? Des éléments de réponse avec vous, Frédéric Mettezo, qui avait enquêté sur la stratégie du Rassemblement National, parti qui, sans doute, a le premier compris ce qui se passait.
Les Gilets jaunes ne sont pas un mouvement d'extrême droite, mais l'extrême droite a su se greffer dessus. Nous l'avons constaté au nord de Bordeaux, dans le Médoc, une belle région de vignes et d'océans, mais très enclavée, où les taux de pauvreté et de chômage sont très hauts. Voilà pourquoi le vote pour le RN y est élevé, et les Gilets jaunes très actifs depuis le premier jour. Pour autant, la gauche locale n'a pas vu ce mouvement arriver. C'est ce que m'ont raconté des élus de gauche et des journalistes locaux, à l'inverse du Rassemblement national, présent dès le 17 novembre sur les barrages, avec de simples sympathisants ou bien encore le conseiller départemental RN, Grégoire de Fournas.
Moi, je décide de participer au mouvement en tant que citoyen, en tant que viticulteur, en tant que père de famille, pour apporter mon soutien et ma petite pierre à cette mobilisation. De toute façon, je suis élu local, donc forcément, les gens me connaissent avec ce mandat, donc c'est difficile de le mettre de côté. Maintenant, je suis venu sans signe apparent, sans prosélytisme, sans revendication ou sans drapeau, voilà, ou sans traque du Front National.
Cette façon d'agir a été donc, Frédéric, théorisée par le Rassemblement National ?
Oui, et au plus haut niveau, un député RN très proche de Marine Le Pen m'a fait part des discussions qu'il avait eues avec elle. Voici ses confidences, lues par un journaliste.
On en a débattu et on a tranché. On s'est dit qu'il ne fallait pas instrumentaliser un mouvement dont nous n'étions pas à l'initiative. Marine Le Pen m'a même dit « attention à ne pas faire de la récup à deux balles ». On a donc accompagné le mouvement de façon non institutionnelle, sans jouer la surenchère. Elle n'a jamais voulu qu'on aille trop loin dans le truc, on n'a pas surjoué.
Le délégué national du RN chargé des fédérations a ensuite transmis ses consignes par mail aux cadres locaux. Marine Le Pen s'est appliquée ce mot d'ordre. Elle n'a jamais porté de gilet jaune et ne s'est pas montrée sur les ronds-points, mais elle a rencontré des gilets jaunes dans le Vaucluse après un meeting, dans sa permanence à Hénin-Beaumont et même, selon nos informations, à l'Assemblée nationale, sans jamais prévenir ou inviter la presse.
Alors la question, Frédéric, c'est de savoir si les idées du Rassemblement national ont infusé parmi les gilets jaunes sur les ronds-points.
Oui, au Rassemblement National, on est convaincu que plusieurs revendications des Gilets jaunes figuraient déjà dans le programme présidentiel de Marine Le Pen. La fiscalité, la ruralité, le référendum populaire. Mais le RN a su également capter des colères très concrètes. Par exemple, il y a un an, dans le Médoc, le RN organisait une manifestation contre les 80 km/h avec des Gilets jaunes sur le dos. Et cela dans la plus pure tradition de l'extrême droite, explique Stéphane François, enseignant aux universités de Laval, en Mayenne et de Mons, en Belgique.
Le Rassemblement National et avant le Front National sont des partis populistes, des partis attrape-tout. C'est-à-dire qu'ils vont déjà humer l'air du temps, capter les revendications des populations et se les réapproprier. Donc quand Marine Le Pen dit « voilà, on est sur la même ligne », non, ils sont sur la même ligne qu'une population dont ils avaient déjà récupéré les revendications par le passé.
Le RN ne soutient pas toutes les demandes des Gilets jaunes. Marine Le Pen est contre la hausse du SMIC, par exemple. Mais il espère tirer profit du mouvement aux européennes. On nous accuse souvent d'être bourrins, nous dit un député membre du bureau national du parti. Mais pour une fois, on a été subtil. Qu'on le veuille ou non, nos idées instillent. Elle diffuse.
Merci Frédéric Mettezo. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Une journée ensoleillée demain à peu près partout. Beaucoup de gelées matinales à attendre au lever du jour et des températures élevées pour la saison dans l'après-midi. Il fera de 12 à 16 degrés au nord de la Loire jusqu'à 19 degrés dans le sud-ouest.